Walkman. Walkman. Les chemins de la découverte musicale, le deuxième mercredi de chaque mois, de 21h à 22h.
Bonsoir, nous sommes le mercredi 14 décembre, il est 21h05, vous êtes sur Prune 92 FM, vous êtes dans l'émission Walkman 3ème du nom. Aujourd'hui, nous sommes avec Julie Améon, en direct des studios de Prune, le studio B. J'en profite, puisque je l'ai oublié les dernières fois, pour signaler que le générique a été composé avec Monsieur Johan Zerman, qui a arrangé et édité tous les jingles que vous entendez tout au long de cette émission. Sans transition, nous allons commencer cette nouvelle émission qui est placée sous le signe de la presse écrite. Nous avons discuté les dernières fois de la médiathèque et de l'influence de l'école dans la construction de nos goûts musicaux. Aujourd'hui, on s'intéresse à la presse écrite. J'ai donc invité Julie Améon qui est avec moi. Bonjour.
Ah,
avec le micro,
on l'a refait. Bonsoir Guillaume.
Merci d'être là. Un mercredi soir, il fait froid.
Ouais.
Mais on est bien, les studios.
Bien, on rate le foot, c'est pas mal.
Et on rate un peu le foot. Donc Julie, tu es journaliste indépendante depuis assez peu de temps, mais ça a toujours été ta grande passion. Tu nous raconteras un petit peu ton parcours là-dessus. Tu es passée par Stérolux à la communication jusqu'à être responsable communication et faire pas mal de relations presse, ce qui a...
C'est ça.
Attisé tes avis sur la presse écrite. Et auparavant, tu as navigué dans d'autres postes, notamment autour de la politique et de la politique culturelle particulièrement.
C'est ça.
Mais on va s'intéresser à ton parcours professionnel, mais on va aussi s'intéresser à ton parcours personnel et un peu intime, entre guillemets. En tout cas, ta relation intime avec la musique. La toute première question que je pose à chaque fois, c'est ton premier souvenir avec la musique. Un premier souvenir où tu te souviens d'un morceau en particulier et avec quoi il est lié.
Alors, mon premier souvenir, j'ai souvent cherché d'ailleurs quel morceau c'était, je ne le retrouve pas, il faudrait que j'en parle à mes parents, mais je me rappelle qu'on m'a offert un vinyle pour mon manche-disque quand j'avais 5 ans, et je ne sais plus ce que c'était, mais c'était très, très rythmé, je me rappelle de sauter dans tous les sens, de danser dans tous les sens, mais voilà, impossible de retrouver le morceau, un jour peut-être. Du coup, mon souvenir avec vraiment un titre... je pense que là, on va se rapprocher des Spice Girls, quoi.
Premières booms ou quelque
chose
comme ça.
Ouais, voilà, les premiers morceaux où vraiment c'était des trucs que je kiffais moi, quoi, pas des trucs de mes parents, quoi.
Ok. Et c'était quelque chose que ça, c'est des morceaux que tu as découvert avec les copains à l'école ou quelque chose comme ça.
Ouais, je pense que là, on devait être en sixième ou quelque chose comme ça, je devais être en sixième, Spice Girls, mais ouais, il y avait quelque chose d'assez fascinant, en fait, de voir cinq nanas comme ça... On voyait vraiment du lourd à l'époque. Alors maintenant, c'est pas ce qu'on dirait, mais ouais, c'était impressionnant, je pense, pour moi à l'époque.
Est-ce que tu as dansé les chorégraphies dans la cour d'école?
Ouais, sans doute. Et souvent, je le fais encore, des fois en soirée, hein, j'avoue.
Okay.
Je fais le petit coup de pied, là, comme ça, latéral.
Ok. Coup de tête, balayette.
C'est ça.
C'est un peu ça. Et la musique, du coup, c'est souvent des expériences un peu comme ça. On ne sait pas pourquoi on fixe un morceau plutôt qu'un autre. C'est beaucoup de morceaux honteux, et surtout dans les années de jeunesse. Et ici, on essaie de s'intéresser à savoir comment ces morceaux, on les retient plus que d'autres. Et je crois que le premier morceau que tu m'as invité, que tu m'as apporté, il est pas mal dans le genre, mais peut-être que c'est ton morceau préféré, et auquel cas, je ne devrais pas le mettre dans cette case.
Alors non, mais effectivement, comme tu m'as dit qu'on parlait de magazines musicaux, j'ai cherché un peu quel était... les premiers groupes dont j'ai été fan quand j'étais toute jeune. Et je pense que ce groupe-là, j'ai eu des posters dans ma chambre, beaucoup.
D'accord. Eh ben, on va écouter ça pour commencer, puis démarrer l'émission tranquillement. C'est les frères Handsome.
Restez avec nous.
Handsome. Handsome Brothers. Et puis c'est Bop.
Mind wants
De retour sur Prune 92 FM, on espère que ça a fait du bien à vos oreilles d'écouter ce morceau souvenir. Et tout de suite, nous allons entamer l'émission avec le moment histoire.
Un peu d'histoire.
Générique de circonstances. On va donc parler d'histoire de la presse écrite. On va la faire assez rapide puisqu'il y a quand même énormément de choses à dire, mais pour remettre dans le contexte, la presse écrite est arrivée évidemment après l'invention de l'imprimante, donc en 1542, si je ne dis pas de bêtises, et si je me souviens bien de mes cours d'histoire. Ce qui a d'abord été écrit en musique, c'est les partitions. C'est la première source de diffusion des œuvres. Les partitions étaient imprimées et réimprimées pour être jouées par les orchestres, mais aussi dans les salons, par les prodiges musicaux comme Mozart. En parallèle de cette diffusion, il y a eu l'invention des journaux et du coup déjà l'apparition de critiques musicaux qui critiquaient les spectacles joués par les orchestres. C'est avant tout la critique de spectacle qui, au début du XXe siècle, permet le développement de la presse écrite musicale. Et en même moment, il y a le développement de l'industrie musicale aussi qui se met à presser des disques et qui permet que de plus en plus de monde écoute de la musique et donc... évidemment, ont un avis sur la musique. Je pense que c'est un peu comme ça que s'est créée la presse écrite. C'est, tout de suite, on a envie de dire « j'ai adoré ça » ou « j'ai détesté ça ». C'est vraiment dans les années 60 que la presse se développe, avec l'apparition du rock, où il y a tout un réseau de chroniqueurs qui se met en place pour parler de la musique en dehors des cadres, parce que dans les journaux traditionnels, on n'a pas envie de parler du rock, c'est encore un peu trop bizarre. Donc ensuite, on a l'apparition de Rolling Stones, le plus grand magazine musical de tous les temps, je pense, à peu près détrôné maintenant par Pitchfork, qui est devenu le plus grand blog musical de tous les temps, avec tous les travers que ça apporte. Mais en France, nous ne sommes pas en reste, car dans les années 80, il y a aussi Best et Rock and Folk, qui sont deux grands magazines des années 60-70 et jusqu'à aujourd'hui. Puis dans les années 80, c'est le magazine Actuel, qui est un peu le magazine qui donne ses lettres de noblesse à l'underground, et qui met en lumière une scène française qui est un peu plus diversifiée que ce que laissait paraître Rock and Folk et Best. Aujourd'hui, il y a évidemment plein d'autres choses. On peut citer aussi le NME et le Melody Makers en Angleterre, parce que c'est quand même deux magazines de musique moderne, musique actuelle, comme on dit dans le jargon.
Dans le jargon, ouais.
Qui sont deux grands magazines anglais qui ont été quand même assez importants. Voilà, évidemment, l'arrivée d'Internet a chamboulé tout ça, mais aujourd'hui, on s'intéresse vraiment à la presse écrite. Est-ce que tu avais des choses à ajouter sur cette historique très rapide, vraiment
Écoute, moi, de ce que j'ai regardé aussi un petit peu pour avoir bien en tête l'historique, effectivement, il y a plusieurs phases, hein, je crois, et il y a vraiment une expansion, en tout cas, entre les années 80 et les années 2000. Il y a eu les baby-boomers dans les années 60 qui ont été les premiers lecteurs, mais ensuite dans les années 80, années 2000, je crois que c'était très lié aussi à l'industrie musicale en fait, qui était vraiment très florissante avec des sorties d'albums, etc. Donc je pense qu'il y a le numérique qui est venu changer ça, évidemment, et avec la fin aussi de l'industrie musicale telle qu'on la connaissait. Et de ce que j'en ai lu, en tout cas, il y a eu un moment aussi un basculement de la presse musicale qui allait peut-être moins traiter de moins être en lien avec la promotion des artistes et qui s'est tourné plus vers les événements également, qui justement a aussi créé des liens avec les salles de concert, les festivals, etc. Donc je trouvais que c'était intéressant aussi de voir qu'à un moment il y a eu un basculement, peut-être aussi un peu de modèle économique, du coup de ligne éditoriale sans doute un peu aussi, quoi.
Oui, c'est d'ailleurs le reproche qui est fait à la presse musicale, c'est d'avoir fini dans les années 90 par être à la solde,
à la botte, quoi.
Des maisons de disques, puis du coup des organisateurs.
Ouais. Donc effectivement, je pense qu'à la fois il y a eu des changements dans les modèles économiques, il y a eu aussi les kiosques, qui à un moment la distribution a arrêté de se faire un peu en kiosque, il y a eu des abonnements, effectivement aussi avec Internet, il y avait un accès plus direct du lecteur avec les médias. Et je trouve que voilà, à la fois ça a peut-être... ça a modifié en tout cas la presse magazine, mais elle n'est pas morte, elle est mutante peut-être. Mais je pense qu'il y a des choses intéressantes aussi qui en sont sorties, peut-être pour un... En tout cas, voilà, moi, le souvenir que j'ai des années 2000 ou 90, c'était quand même quelque chose de commercial, quoi, aussi, parfois.
C'est vrai qu'il y avait pas mal de titres éphémères aussi. Je me souviens, je vais le dire maintenant, du premier magazine que j'ai acheté, c'était un magazine Energy. C'était au moment des Energy Music Awards. Ils avaient lancé une série de magazines assez brefs. C'était pour vendre les stars. Il n'y avait que des photos en gros plan avec des couleurs très criardes. Et c'était effectivement c'était de la pub, en fait.
Ouais, je pense que c'était très lié, en tout cas, aux sorties d'albums, au plan promo aussi des artistes, quoi. Enfin, en tout cas, certains, pas, évidemment, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais en tout cas, oui, je pense qu'il y a des mutations de genre aussi liées à ces différents modèles économiques, quoi.
Et comment tu te plaçais au milieu de ça quand, du coup, tu travaillais en tant que responsable communication ? Tu étais à la fois entre la presse, où c'est toi qui as envie de faire parler de ta salle, donc tu as envie de convaincre des journalistes de parler de toi, et entre les artistes qui ont envie qu'on parle d'eux à travers toi. Comment tu faisais pour gérer ça ?
Ouais, alors moi je suis arrivée, je pense, donc en 2015 à Stéréolux. Je pense que j'avais déjà, c'était plus trop l'âge d'or de la presse papier. On était déjà quand même vers une digitalisation, hein, pas mal de tout ça. Et en fait, il y avait quand même des partenariats, notamment avec Trax, Tsugi, pendant longtemps. Et on parlait en tout cas pour des festivals comme Scopitone ou des événements particuliers. On échangeait vraiment avec les rédactions et c'est eux qui choisissaient en général l'artiste qu'ils voulaient interviewer, etc. Donc il y avait quand même des échanges éditoriaux, mais ils gardaient leur... Enfin, ils gardaient, je pense qu'ils font toujours ça en fait, mais leur indépendance, etc. Et ils traitaient du sujet. C'est vrai que petit à petit, on est allé moins vers traiter parfois le propos de l'artiste sur une actualité, justement, une sortie de disque, etc. Et on a plus été vers le propos de l'artiste. Enfin, moi, j'ai ressenti ça, en tout cas. Aussi parce que Stéréolux, c'était musique actuelle et art numérique. Donc, parfois aussi, c'était des formats un peu hybrides, où il y a souvent quand même un propos, une narration, en tout cas quelque chose à raconter, en tout cas de l'œuvre qui est diffusée après dans la salle de concert. Donc c'est vrai qu'on allait plutôt voilà, vers aussi le propos, de quoi ça parle, quelque chose, tu vois, d'un peu sensible, d'un peu raconté, quoi. Voilà, ce qu'il y avait derrière.
À ce moment-là, la presse, du coup, sert d'illustration de l'œuvre. Et c'est là où c'est intéressant, parce que l'écrit, dans la musique notamment, dans les arts numériques aussi, mais l'écrit a moins sa place à part les pochettes de disques et les lignes. Donc la presse, elle vient vraiment expliquer quelque chose.
Oui, c'est ça, c'est prendre le temps aussi d'aller un peu fouiller de quoi parle l'artiste, c'est quoi son parcours. Oui, je pense que tu as raison, ça vient illustrer un peu, ça fait un peu de la médiation, effectivement. Ça vient aider le lecteur aussi à comprendre qu'il y a dessous, quelles sont les influences de cet artiste-là, à faire des ponts peut-être aussi entre toute une chaîne d'artistes, d'influences, etc. Quoi.
C'est vrai qu'il y a une reconnaissance à travers de « Ah tiens, si cet artiste écoute ça, moi aussi j'écoute ça, donc il y a un truc chouette, tu te sens valorisé. » Et puis en plus, ça te donne peut-être envie d'aller écouter les autres groupes dont les disques qu'il a cités, ouais. Je ne reconnais pas d'eux, tu vas les écouter. Quoi.
Je crois que c'est une des fonctions principales, en tout cas des articles comme ça, musicaux, de pouvoir comprendre d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, c'est qui à côté de toi fait ça. En tout cas, moi j'ai l'impression que quand on lit des articles qui parlent d'artistes, on a envie de comprendre leur environnement. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais et puis oui, effectivement, de savoir... moi, je sais que je cherche ça, je cherche à faire des ponts comme ça, à me dire, ok, lui, il écoute ça, ah, mais il y a ça qui ressemble, bah, d'ailleurs, en fait, ils sont de la même ville, enfin, tu vois, j'aime bien faire des ponts, en tout cas, je sais que je découvre, en tout cas, de la musique encore comme ça, en faisant des passerelles, quoi, entre les groupes, et effectivement, il y a besoin de prendre le temps, de connaître un peu leur histoire, leurs influences, etc.
C'est bien parce qu'on revient directement au cœur du sujet. En fait, quel est le sens d'avoir une stress musical. Mmh. C'est pour tout ça, en fait. C'est parce qu'on a, quand on écoute de la musique, on a envie d'en savoir plus et on a envie de comprendre. Est-ce qu'on cherche à comprendre l'émotion de la musique à travers ce qu'on peut savoir sur l'artiste ?
Ça, je sais pas. Je pense l'émotion. On écoute une musique, on a l'émotion ou pas, d'ailleurs. Enfin, selon sa sensibilité. Par contre, quand on en a une, ouais, je pense qu'effectivement, on a un peu envie de, je sais pas, ça crée une intimité ou quelque chose comme ça, non ? On a envie de, mais c'est qui cette personne ? Qu'est-ce qu'elle fait ? D'où elle vient ? Enfin voilà, moi, en tout cas, je sais que je suis souvent curieuse, mais ça passe avant par l'écoute, souvent, en tout cas. J'ai envie de creuser, effectivement, à partir d'une chanson ou d'un groupe qui m'accroche, quoi.
Est-ce qu'il y a un groupe qui t'accroche, dont tu as envie de nous parler là tout de suite ?
Un groupe récent, tu veux dire, ou un groupe qu'on pourrait écouter ?
Je te laisse le choix. c'est ta programmation.
Si tu veux me repasser un peu de musique, tiens, je vais te proposer de passer Vesta ouais. Comics. Et puis, je te raconterai rapidement le lien que j'ai avec ce groupe, si tu veux, après.
Ok, on fait ça. On écoute Vesta. Le morceau s'appelle Parental Advisory, si ouais, je n'ai pas de bêtises. Ça. Qui était pour ceux qui n'ont pas de disque avec eux, qui était une mention qui était affichée sur les...
Attention, gros mot.
C'est ça. Bouchez-vous les oreilles.
interrogation, but the world we lost control, yeah, yeah. Rehabilitation in the interrogation, but the world we lost control, yeah, yeah. Rehabilitation in the race. On television, excitons, invention terrors, yeah, yeah. This information about the race. Now I'm a man, the head is clear.
De retour sur Prune 92 FM, vous êtes dans l'émission Walkman. Nous sommes en compagnie de Julie Améon et nous écoutions un de ses morceaux favoris aujourd'hui,
oui.
Un groupe Vesta.
Ouais, Vesta Comics, alors c'est un groupe, j'avais pas écouté ça depuis longtemps, c'est un groupe dont j'ai été manager quand j'avais une vingtaine d'années, je sais plus tout à fait. Voilà, donc quand tu m'as sollicité pour parler de magazines musicaux, c'est vrai que j'ai assez rapidement pensé à eux parce que voilà, il y a une sortie d'album, etc. Donc c'est un groupe angevin qui n'existe plus, mais voilà, dont les membres font tous toujours de la musique. Et c'est vrai que c'était, fallait tout penser quoi. C'était une sortie d'album indépendant, donc on a fait des relations presse et j'ai retrouvé dans mon ordinateur une petite revue de presse avec des articles de Ouest-France, je crois qu'il y a voilà des petits fanzines, etc. Donc c'est, en tout cas, c'était une de mes premières expériences dans ce monde-là, la musique.
Eh bien, j'étais ravi de découvrir. Et je te dis hors antenne que on avait d'autres émissions sur la scène locale. Je pense que ce serait une très bonne pépite à ressortir pour une prochaine émission. On va revenir un peu sur la relation qu'on peut avoir avec les magazines. Parce que pour ceux qui n'ont pas trop connu ça, quand on était jeunes, puisque nous avons été jeunes, il y avait moins Internet et les magazines étaient vraiment un truc qu'on attendait avec fébrilité parfois. Ça m'est arrivé d'aller 2-3 jours de suite chez le marchand de journaux parce que je savais qu'il y avait un nouveau numéro dont la couverture avait été annoncée dans celui d'avant avec mon artiste préféré qui arrivait en couverture et un double poster au milieu.
Ouais. Et t'avais préparé tes 10 balles.
Et si je me faisais chourer le magazine sous le nez par mon pote du lycée qui voulait aussi l'acheter, j'étais un peu fâché. Et il y a vraiment un truc où c'était pas n'importe quoi, c'était...
Ouais, c'était un rendez-vous. Hein. Enfin, moi, j'ai ce souvenir-là aussi. On a à peu près le même âge. J'ai le souvenir que c'était un rendez-vous. Moi, je me souviens plutôt d'y aller avec des copines, tu vois, au bureau de tabac du centre commercial du coin. Et c'était un événement, quoi. C'était attendu. Alors, moi, je me rappelle d'avoir des nouvelles fiches paroles à découper, à pouvoir chanter comme ça dans ma chambre. Puis les posters, quoi. Les posters, là, c'était quand
le
même...
poster.
Il y en avait partout. Hein.
Toi, je ne sais pas comment on fait maintenant, on imprime un fond d'écran d'Internet.
Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils font.
On commande des posters peut-être sur le site, sur le fan club.
C'est possible, ou alors, je ne sais pas, il faudra leur demander.
On passe vraiment pour des boomers.
C'est clair.
Moi en premier. Mais il y avait vraiment cette chose-là, voilà, avec le magazine, un truc vraiment de sensation... On passait des heures à l'éplucher, puis en fait, on ne pouvait pas écouter tout ce dont on parlait. Comment tu trouves que ça t'a développé ta culture musicale et ton envie d'écouter autre chose ?
Alors, mes premiers souvenirs de magazines musicaux, je pense que c'était très lié à mon âge, mon jeune âge de collégienne, donc plutôt en mode groupie, quoi, en fait, voilà. C'était... Et donc, par contre, effectivement, les posters étaient dans ma chambre, ça tournait, entre World's Apart, Pastry Boys, et ces trucs-là. Mais après, plus tard, effectivement, je pense que j'ai plutôt été y chercher ce qu'on se disait tout à l'heure, hein, mais voilà, il y avait des artistes que j'aimais beaucoup, qui me touchaient énormément, et je voulais comprendre, quoi, qui c'était, etc. Et petit à petit, j'ai découvert, effectivement, pas mal de choses comme ça, mais... Je pense que c'était plutôt... Alors, j'ai pensé à Tout à l'heure, là, j'avais une phrase en tête, il y a une sociologue qui s'appelle Tiphaine Pinville, on pourra en reparler, qui dit que la musique, c'est un moyen d'exprimer son identité, de la rendre visible. Et ça me parle pas mal, en fait, parce que je pense en tant qu'adolescent, on a ça, quoi. Tu vois, on a besoin de trouver un peu une guilde, en tout cas, de se mettre un peu dans une case, en tout cas, dire, voilà, moi, je fais partie de cette team-là. En tout cas, moi, elle a souvent changé. Plusieurs fois, en tout cas, dans ma vie, j'ai évolué entre, voilà, petite adolescente groupie, après plutôt écouter des trucs plutôt rock. À un moment, j'ai écouté Deftones, System of a Down avec des copains. J'aimais bien ça, aller écouter de la musique avec des copains. Et puis après, j'ai trouvé des copines. C'était pas mal, ça. Dans la vingtaine, qui était aussi mélomane, assez calée. Une copine qui est disquaire, d'ailleurs. Et qui m'ont fait découvrir plein de trucs aussi. Donc, et là, tu vois, en fait, en ce moment, j'ai l'impression que c'est encore depuis quelques années, j'écoute plutôt de la musique assez progressive, plus instrumentale, etc. Donc, c'est marrant, tu vois, ça évolue encore, je trouve.
Et tu trouves que les magazines, c'était un peu un moyen de se raccrocher à une chapelle et de « Ah, toi aussi, t'achètes celui-ci, et du coup, on est semblables ?»
Eh ben, ouais, je pense. Et puis, en l'occurrence, j'ai fait un petit sondage auprès des copains. J'ai des copains, okay, copines, je leur ai fait un petit message groupé parce que justement, alors moi j'ai mes souvenirs à moi, mais ils sont flous un peu, tu sais. Et parce que ça fait longtemps que je lis plus trop de presse musicale spéciale, enfin presse spécialisée musicale. Je lis pas mal de magazines, mais pas forcément spécialisée musique. Et du coup, je voulais avoir un peu leur ressenti aussi. Ce qui était assez flagrant, c'est que je leur ai tous demandé c'est quoi le premier magazine que tu as acheté. Alors les filles, ouais, parce que du coup, il y a quand même un sujet, mais les filles ont répondu Star Club pour 1, 2, 3, 4, 5. Salut, fan de OK Podium. Les garçons ont répondu Rock Sound, Guitar Part. Voilà. Après, il y a Okapi et Science et Vie Junior.
Ok.
Et voilà, et en fait, alors après, sur les magazines réguliers, ça va, ça se recoupe sur les attentes, ce qu'on en a fait des magazines. Il y a toujours ce truc-là, en fait, de qui jouait avec qui venait d'où, quelle tête ils avaient, les références, comme on disait tout à l'heure, faire des liens, découvrir des nouvelles choses. Donc, ça, après, ça se recoupe, mais par contre, je trouve que le point de départ est quand même assez dingue, quoi. Qu'à 12 ans, en fait, les garçons et les filles, ils n'achetaient pas du tout la même chose déjà, en fait.
Et du coup, ils n'écoutent pas du tout la même chose.
Eh bien, en fait, je pense que c'est peut-être, on parlait d'industrie musicale tout à l'heure, mais en tout cas, l'industrie musicale, peut-être, ne nous mettait pas tout à fait au même endroit à cet âge-là, attendait peut-être pas la même chose de nous. Et puis, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a une étude là, de sociologie qui est sortie, qui a été menée par la salle de spectacle à Nef, à Angoulême, par une sociologue donc, que je citais, qui s'appelle Tiphaine Pinville, et qui a suivi en fait, le parcours, qui a enquêté auprès de jeunes enfants et adultes et musiciennes ensuite, pour connaître un peu leur parcours en termes de pratique musicale. Et en fait, ce qu'elle révèle, c'est qu'effectivement, ça se joue dès le plus jeune âge, et en fait... Collège, les garçons et les filles ont tendance à imiter, à emprunter la culture musicale de leurs parents, mais de façon assez genrée déjà, en fait, effectivement. Donc,
je veux dire que les garçons vont écouter ce que leur papa écoute, c'est...
Ouais, c'est ça.
Les filles, ce que leur maman écoute.
Et donc, on est déjà, en fait, dès le collège. Dans les garçons, écoutent plutôt de l'électro, du hip-hop, etc. Et les filles, de la pop, de la variété, de la chanson. Alors... En grosse proportion, évidemment, il y a des exceptions, mais il y a quand même déjà un peu un biais à ce moment-là. Et je pense qu'en tout cas, nous, voilà, dans les années fin 90-2000, là, je pense que c'était à pleine balle, quoi. Maintenant, on commence à avoir un peu de recul là-dessus, mais je pense que c'était vraiment flagrant à l'époque, quoi.
C'est vrai que quand j'imagine les magazines, donc pour ceux qui connaissent pas Fan 2 ou des choses comme ça, c'était des magazines avec des couvertures toujours roses, ouais, avec des étoiles, avec des choses comme
garçons.
Ça. Et des garçons. Ouais, et des garçons beaux gosses avec des t-shirts, ouais, proches du corps et tout ça. Rock Sand, tout de suite, ou Guitar Part, c'était tout de suite un guitariste avec des tatouages et une grosse barbe, quoi.
Donc, alors voilà, c'est un peu de la psychologie de comptoir. Je ne suis pas experte du sujet, mais Je pense qu'en tout cas, il y avait déjà ce truc, tu vois, de mettre les filles en, en groupie, et puis les garçons, plutôt d'en faire des apprentis musiciens, tu vois, où parler un peu plus de technique, un peu plus de comment on fabrique la musique, etc. Et ça, c'est quand même des choses qu'on retrouve après, c'est-à-dire que donc dans cette étude-là, elle, qui est vraiment super, quoi, je la conseille à tout le monde, elle est très facile d'accès, elle est... Ça montre notamment que les instruments sont très genrés aussi, dès le départ. Les filles, c'est 67% des chanteurs-chanteuses, donc c'est des filles. Et puis par contre, à la batterie, c'est 14% de filles, 12% à la guitare et puis 14% à la basse, quoi. Et ça, c'est vraiment, tu vois, dès l'école de musique, quoi. Et donc au final, effectivement, je pense qu'il y a aussi dans les pratiques musicales, il y a... Et dans les influences qu'on a, il y a dès le départ des biais comme ça, et qui sont sans doute quand même liés aux représentations qu'on a en fait de la musique. C'est-à-dire que, voilà, je refais le lien avec les magazines, mais qu'est-ce qu'on montre aux jeunes filles ? Est-ce qu'on leur montre des femmes qui font de la batterie ? Est-ce qu'on leur montre des femmes qui sont compositrices et pas que interprètes ? Est-ce qu'on leur montre beaucoup de chanteuses, du coup ? Tu vois, je pense que si les représentations vont influencer les jeunes générations, ensuite, quoi. Voilà.
J'ai fait une micro-étude totalement empirique sur les trois derniers mois. En ayant l'idée de cette émission, je me suis dit, je vais aller dans tous les kiosques. Et puis, à chaque fois que je vais voir des magazines, je vais compter le nombre de femmes. Je suis à un peu moins de 10% de représentativité des femmes, en tout cas en couverture, sur les magazines de musique qui existent encore. Il y en a beaucoup moins qu'avant. Mais les magazines qu'il reste, ça va être donc c'est Rock and Folk, New Noise, Les Un Rock. On peut aussi inclure les pages de Libération qui sont sur la musique ou des choses comme ça. Mais en fait, on est sur une représentativité de à peu près 10%. Donc effectivement, c'est rien du tout. Ouais. Et on part de Rock and Folk où c'est même pas 1%. Aux Un Rock où il y a un peu plus d'inclusivité depuis quelques années, même si c'est plutôt un magazine société qu'un magazine musique aujourd'hui. Mais...
Et tu sais, je pense que c'est même encore plus pervers que ça, dans le sens où je repensais à tout à l'heure, cet après-midi, en pensant à ce soir, que je pensais au personnage de Maxine dans Stranger Things. Je pense que tout le monde connaît, on la voit avec son petit casque, tu vois, c'est dans les années 90. Mmh. Mais c'est le garçon manqué de la bande, tu vois. Et c'est la meuf qui fait, qui écoute de la musique tout le temps, qui fait du skate, etc. Et en fait, ce qu'a montré donc Tiffany aussi dans l'étude, c'est que les femmes qui aiment la musique, qui veulent en pratiquer, vont même avoir tendance à se masculiniser, tu vois. Mmh. Ou en tout cas, pour se fondre un peu dans la masse. C'est les références, quoi. Les hommes, même pour des femmes, c'est les références parce que c'est effectivement ce qui nous tire, quoi. C'est-à-dire que c'est les musiciens qu'on connaît, donc qu'on a envie d'imiter, entre guillemets, quoi. C'est encore, je pense, le cas et c'est fou, quoi. Tu dises que en 2022, tu vois, t'as vu. T'as vu que les femmes représentaient que 10% des magazines, quoi. Enfin, c'est...
Il y a quelque chose là-dessus aussi sur l'érudition, si on peut appeler ça comme ça aussi. C'est vrai que souvent, on écoute des journalistes masculins nous raconter leur culture incroyable et nous parler de sources, de références qu'ils sont censés être les seuls à avoir, entre guillemets. Je sais pas trop comment dire ça sans être maladroit, mais...
Ouais, je pense qu'il y a eu... Ouais, un rapport de... En fait, c'est des experts. C'est encore beaucoup des hommes, les experts. Ouais. Mais ça change. Mais il faut du temps pour que ça change. C'est-à-dire qu'il faut... Ça se construit, quoi. Il faut former aussi des femmes pour prendre la relève, quoi.
J'avais une question là-dessus, évidemment. Je pense que tu as fait ce constat il y a quelques temps. Et... T'as jamais eu cette envie du coup d'écrire sur la musique, parce que finalement tu l'as assez peu fait.
Alors,
est-ce que c'est quelque chose où tu te dis, mon avis n'est pas, je retrouve pas mon avis dans les magazines et je retrouve pas les artistes dont j'ai envie.
Eh ben, tu sais, en fait, c'est marrant parce que je crois que c'est assez récent ma prise de conscience sur tout ça. Donc, cette étude-là, j'en parle pas mal, mais en fait, quand je l'ai lu, alors je suis musicienne amateur. à côté. Je joue dans deux groupes avec des copines et des copains. Et voilà, en septembre, j'ai été m'inscrire au local de répète et je me suis rendu compte qu'il y avait moi et 20 gars, quoi. Et voilà, j'ai commencé à réfléchir à ça et après, j'ai lu l'article, enfin, l'étude de Tiffen et j'ai commencé à écrire des articles, effectivement, sur ça, en tout cas, plutôt sur l'approche sciences sociales. Moi, je trouve que c'est intéressant, ça m'intéresse pas mal de mettre un peu de science aussi dans tout ça parce que j'ai souvent eu justement des discussions un peu comment dire, abstraites ou imprécises sur des ressentis justement autour de ces questions-là. Et des fois, ça dessert un peu, entre guillemets, la cause. Et là, je trouve que c'est vachement bien qu'il y ait des études maintenant de sociologie. Il y a une personne qui s'appelle Célia Berthet qui fait une thèse en ce moment justement aussi là-dessus. Et je trouve que c'est bien qu'on ait un peu de données pour objectiver tout ça. Donc moi, effectivement, j'ai envie de relayer ça, en tout cas. Tu vois qu'il y a des témoignages, il y a des... Voilà, objectiver, voilà, un peu tout ça. Et même, en fait, j'ai un... Et là, c'est un scoop mondial. Mais j'ai commencé à écrire un projet de podcast autour de ça. Et autour, notamment, du parcours de musicienne. Comment, en fait, tous les obstacles, en fait, qu'il faut surmonter pour être musicienne. Parce que voilà, je pense que malheureusement, c'est pas encore trop su. On a l'impression que maintenant, voilà, il y a l'égalité, on peut avoir accès aux mêmes chances. Et sur le papier, c'est vrai, mais n'empêche qu'il y a aussi pas mal d'obstacles à dépasser pour en arriver à être, voilà, journaliste musicale ou artiste féminine, etc. Donc, je trouve que c'est important, effectivement, que ce soit entendu, mais peut-être que le fait qu'il y ait plus de journalistes femmes aussi pour parler de ces sujets-là va peut-être aussi ouvrir, tu vois, à ce genre de discussion.
C'est vrai, je pense à une journaliste en particulier, je vérifie son nom pour être sûr de ne pas l'écorcher, mais qui s'appelle Sophie Rosemont.
Ah, je ne la connais pas.
Qui écrit dans Rolling Stone, Vanity Fair, Les Arts Rock, France Culture aussi. Et depuis que j'ai fait attention un peu au discours, etc., et à qui je lisais, j'essaie aussi d'équilibrer les journalistes que je lis. Et elle, particulièrement, elle a vraiment. Elle écrit autant sur des hommes que sur des femmes, mais du coup, avec son regard de femme, et ça change parfois complètement. Elle écrit beaucoup sur des artistes très connus, Prince ou Jimi Hendrix, ou aussi Patti Smith. Et en fait, ça change un peu la vue qu'on peut avoir sur la musique.
Ouais, c'est bien d'avoir une pluralité, effectivement, d'angles de vue, de points de vue, de façon de ressentir les choses, encore une fois, quoi.
Donc ça arrive doucement, et elle en fait partie, en tout cas. Je vous invite à aller lire ses articles, Sophie Rosemont. Est-ce qu'on écouterait un petit morceau?
Ouais.
Ou un morceau tout court, puisqu'on dit un petit morceau, c'est un peu dénigrant. Écoutons un morceau. Lequel te ferait plaisir?
Écoute, vu la séquence, je te proposerais bien une femme. Donc, il y a Mansfield Tia ou Courtney Barnett. Qu'est-ce que tu préfères?
Je ne connais pas le morceau de Courtney Barnett.
Eh ben,
à moins que
Mansfield
Tia te fasse très, très plaisir.
Les deux, comme tu veux.
On peut écouter les deux. Allons-y alors. Une histoire particulière, comment tu as découvert ce morceau de Courtney Barnett?
Alors, ça, c'est pas du tout Presse Magazine pour le coup, mais je suis assez adepte d'une plateforme de streaming qui, avec ses algorithmes, me fait découvrir plein mal de choses. Et ça en fait partie. Voilà.
C'est le morceau Hopefulness.
It with you.
jusqu'à la dernière note. On se rend compte qu'en fait, c'est presque le bruit du magnétophone qu'on entendait. C'était Courtney Barnett avec le morceau Hopefullessness.
J'ai réussi à le dire. Pas facile.
Nous sommes toujours avec Julie Améon. Depuis pratiquement une heure, il ne reste pas tant de temps que ça, on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé presse musicale, presse écrite en tout cas, et comment cette presse nous aide à faire des découvertes, mais aussi nous aide à faire des découvertes qu'elle veut bien, et notamment avec un biais complètement biaisé sur l'égalité homme-femme et sur la visibilité des femmes dans la presse, en tout cas des artistes féminines. Ça change doucement, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour que chacun ait sa place, en fait, tout simplement.
Ouais, pour qu'elle soit plus visible, qu'il y ait aussi une image moins stéréotypée, je dirais. Comme on disait, pas que des chanteuses. Et puis, en fait, aussi, il faut, je pense, augmenter le vivier de musiciennes et d'artistes pour peut-être... Parce que là, voilà, en musique actuelle, 18% de femmes sur scène. Donc, effectivement, peut-être ça se retrouve aussi dans les magazines, mais peut-être que les magazines peuvent être un peu proactifs, ouais, effectivement, pour donner des modèles aux plus jeunes.
Ça monte tout doucement depuis qu'il y a une prise en compte, par exemple, sur les festivals. La proportion de femmes dans les programmations augmente vraiment, mais on est passé de 3% à 15%, hein, donc on est encore très très loin, mais déjà, ça monte doucement. Il y avait une liste très intéressante qui était sous forme de Google Drive partagée. C'était UK Female Musician ou quelque chose comme ça. C'est des labels anglais et des tourneurs anglais qui avaient lancé ça en disant arrêtez de nous dire qu'il n'y a pas assez d'artistes féminines. Voilà une liste. Et il y avait 4 ou 5 000 noms rien qu'en Angleterre.
Pour peut-être finir, je sais pas, sur ce sujet-là, en tout cas, en France, il existe une initiative là, qui s'appelle, il y a un annuaire qui s'appelle Majeur, M-A-J-E-U-R-E-S. Et en fait, ça liste justement toutes les femmes, à la fois artistes, mais aussi expertes, tu vois, professionnelles du secteur. Et justement, pour pouvoir aussi, pour les personnes qui veulent faire intervenir des personnes sur ces sujets-là, qui puissent aussi aller piocher et faire intervenir des femmes pour montrer qu'il y en a, il y en a.
C'est noté, majeur.
Voilà, majeur.
On va aller regarder ça. Il nous reste 5 petites minutes. Peut-être une question un peu plus ouverte, c'est très ouvert ce qu'on a raconté, mais à quoi ressemblerait aujourd'hui ton magazine musical idéal? Qu'est-ce que tu aimerais retrouver dedans?
Idéal. Je crois que moi je me reconnais plutôt dans l'idée d'avoir des magazines plus qualitatifs, quitte à ce qu'ils soient moins souvent, tu vois, d'avoir des trimestriels ou quoi, c'est plutôt la mouvance en ce moment, hein, les périodicités se rallongent un peu, et notamment Magic ou d'autres qui font des MOOC, qui ressemblent, donc c'est la contraction de magazine et book, donc... qui sont vraiment des choses qui sont un peu plus qualitatives, on va dire, en termes de format, de papier. Ça se rapproche presque du livre, tu as envie de le garder. Je suis assez sensible, en tout cas, aussi au format, tu vois, au format, à la forme, au graphisme, à l'identité que ça peut avoir. Et puis après, dans les contenus, magazine idéal, écoute, peut-être... ça là, faire des pompes, faire découvrir des choses, avoir des interviews peut-être d'artistes qui vont me raconter un peu leurs influences à eux, qui vont me donner un peu de grain à moudre, savoir aller découvrir d'autres gens. Après, moi je suis assez friande aussi de, je sais pas, je me rappelle pendant le Covid là, Dave Grohl avait fait un papier justement sur la situation, etc. Et je trouve que c'est assez, je suis assez friande en tout cas de paroles d'artistes qui vont s'exprimer sur d'autres sujets. Tu vois, des sujets plus d'actualité ou des enjeux actuels. Il y en a pas mal. Donc ça, j'aimerais bien voir ça aussi. En tout cas, des paroles d'artistes qui vont venir peut-être porter des engagements ou en tout cas parler d'autre chose que leur musique. Voilà.
Ça me fait penser à ça remonte un peu à la tribune de Simocel, un artiste nantais, où il disait « J'en ai marre de prendre l'avion en tant que DJ ».
Ouais.
Et c'est vrai que c'est assez rare, finalement, d'avoir ça dans les magazines.
En tout cas, moi, j'ai tendance à penser que c'est aussi le rôle des artistes que d'être un peu comme ça, de proposer ouais, d'autres façons de voir le monde, etc. C'est quand même ce qu'on attendait d'artistes. Donc, j'aimerais en tout cas lire comme ça des articles pour comprendre un peu ce qui se cache sous ces gens-là, quoi, en termes d'engagement.
Si aujourd'hui vous avez un magazine musical et que vous avez entendu cet appel, n'hésitez pas.
C'est clair.
Continuez à interviewer des artistes, mais demandez-leur leurs opinions ou donnez leur tribune pour qu'ils puissent écrire quelque chose où ils s'expriment sur autre chose que la musique.
Ouais, mais c'est bien, hein, tu vois, la musique c'est suffisant. Hein, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être engagé par ailleurs. La musique, ça a des vraies vertus. Mais je trouve qu'à l'heure actuelle, en tout cas, il y a des artistes qui portent des visions, des valeurs, et puis qui essayent aussi d'autres choses, qui peuvent dire, voilà, moi j'ai fait ça, voilà. Ça peut être inspirant, quoi, et on a besoin d'inspiration.
Et pour certains, ça nous permettrait d'arrêter d'écouter leur musique en connaissant leur vision
peut-être,
complètement pourrie du monde.
Peut-être, on ferait un peu de tri.
Ça ferait pas mal de tri. Pardon, je voulais pas finir sur une note négative, mais ça me fait penser aussi à d'autres artistes dont on est moins content de découvrir la vie.
Ah oui, t'en as en tête ou vas-y.
Il y a à peu près 27 exemples ces dernières années. Je pense à ce qui se passe dans le milieu de la BD là récemment, avec Bastien Vivès notamment. Voilà, dont on découvre, on redécouvre que c'est quelqu'un de pas très fréquentable, voire pas du tout. Terminons par peut-être quelques notes de musique. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ici ce soir.
Merci de ton invitation.
J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Si vous n'avez pas regardé le match que vous êtes en train d'écouter, Prune, vous êtes vraiment parmi nos auditeurs les plus fidèles.
Je vous
remercie au nom de toute l'équipe de la radio qui est en train de faire une raclette dans les bureaux. Merci encore.
Merci.
Et puis, avec quelle note on se quitte ?
Oh, bah là, je te proposerais bien Mansfield Tia.
Allons-y. On n'aura peut-être pas le morceau en entier, mais...
Non, il est court, en plus.
Merci encore.
Merci beaucoup.
Bonne soirée sur Prune. Ça continue tout de suite avec Synthé Cosmique.
That will celebrate my sins. That will celebrate.